en ouvrant la parole et nous poursuivons notre méditation dans l'épître de Paul aux Galates. Et donc nous avançons dans cette épître et nous sommes ce matin dans le chapitre 4 et nous allons nous arrêter sur les versets 8 à 11. Donc Galates au chapitre 4, les versets 8 à 11. Évidemment, vous allez reconnaître rapidement la thématique que l'on a abordée jusque-là dans la liturgie. Et donc, nous allons faire cette lecture maintenant. Donc, livre des Galates, au chapitre 4, les versets 8 à 11, pour la lecture de la parole de notre Dieu. Je vous invite à nous lever. Galates, chapitre 4, versets 8 à 11. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Et vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir ? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous, dit l'apôtre Paul. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Seigneur, nous croyons que cette parole que nous venons de lire repose sur une réalité historique, mais surtout sur une réalité, celle de ton Esprit Saint, qui a conduit l'apôtre Paul en écrivant ceci, à nous révéler ta parole. Seigneur, nous croyons que dans ce texte, tu parles. Et Seigneur, nous croyons que ce texte, inspiré de l'Esprit Saint, est venu jusqu'à nous par ta providence. Aussi, Seigneur, notre prière ce matin, c'est que ton Esprit Saint, ce même Esprit Saint qui a parlé à Paul, qui a donné à Paul de rédiger ces versets, que ce même Esprit Saint, ce matin, présent au milieu de nous, ouvre nos cœurs et nos pensées. Et Seigneur, puisse ta parole, parler à chacune et à chacun de nous. Là, nous avons besoin de l'entendre. Tu nous donnes tous de cheminer les uns et les autres. Tu nous donnes tous d'entendre une même parole, mais pas forcément de la recevoir de la même façon. Donne-nous, Seigneur, chacun, de recevoir ce que tu veux que nous recevions ce matin pour que nous grandissions. Et particulièrement, Seigneur, dans ce thème ici abordé, ce thème où si facilement nous nous laissons détourner de l'évangile que tu nous donnes. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'ouvrir les yeux, d'être à l'écoute de ta parole, de nous laisser porter par ta parole, de nous laisser reprendre par ta parole, et que ton Esprit Saint, Seigneur, nous donne de ne pas ressortir ce matin de la même façon que nous sommes entrés. À toi, Seigneur, en soit toute la gloire, et sois auprès de nous tous, nous le prions, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à reprendre votre place. Ce matin, je vais régulièrement faire référence à un petit ouvrage. Petit ouvrage, petit dans sa taille, grand dans sa profondeur. J'ai déjà évoqué ce livre à plusieurs reprises. Ce matin, je vais l'évoquer peut-être un peu plus parce qu'on est vraiment dans le sujet. Et je pense à cet ouvrage du pasteur Tim Keller, que j'aime appeler en français, d'une traduction plus littérale que le titre original, qui s'appelle « Des dieux de contrefaçon ». On parle de contrefaçon, on en entend plus parler pour les sacs de Louis Vuitton que autre chose, mais là, il aborde la thème pour dire le thème, pour appeler, pour nous faire prendre conscience des dieux de contrefaçon. Le titre français, c'est « Les idoles du cœur ». C'est pas tout à fait, ouais, c'est ça, mais bon, je préfère le titre « Les dieux de contrefaçon ». Et cela repose, eh bien, sur cette partie du texte où Paul dit aux Galates « Vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas ». C'est qu'il y a là des dieux qui sont de faux dieux. Donc, je vais faire un certain nombre de références à cet ouvrage. Et évidemment, je ne peux que vous encourager. Il est facile à lire pendant l'été, si vous voulez le lire. Il a des côtés décapants à la Tim Keller, mais en même temps très visible, très accessible. Et je vous encourage à le lire, je nous encourage à le lire, parce qu'évidemment, il suscite, comme vous allez en entendre quelques échos ce matin, il nous interpelle, et il nous interpelle à nous poser quelques bonnes questions. Alors ben justement, pour reprendre les propos de Tim Keller, il fait un parallèle très très intéressant. Il parle des 10 commandements et il dit, et dans les 10 commandements, souvenons-nous, Dieu dit « Je suis l'Éternel ton Dieu » et très vite il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi ». Et on pourrait se dire, mais oui, mais quels sont les autres dieux? Et il fait le lien avec la suite du texte en disant tout de suite après, Moïse, par l'inspiration de Dieu, le Saint-Esprit, dit, tu ne te feras pas d'idole et tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles. Tu n'auras pas d'autre dieu et tu ne te feras pas d'idole. Et donc, Tim Keller de faire le lien et dit même à ce sujet, tout est dit. En fait, tout peut devenir une idole, une alternative au vrai Dieu, une contrefaçon. Tout peut devenir contrefaçon du Dieu créateur devant nous ici. Alors, pour aller un petit peu plus loin dans sa pensée, qu'est-ce qu'une idole? Eh bien, il le définit ainsi, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie. Ça on fait des choses. Tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie, c'est tout ce qui captive votre cœur et votre imagination, et tout ce qui remplace les biens que seul Dieu peut donner. Et si on creuse un tout petit peu, même dans la prière qu'on a entendue tout à l'heure, quand on regarde tout ce qui nous montre ce que Dieu nous donne, eh bien, tout ce que nous voulons remplacer, c'est-à-dire tout ce que nous voulons prendre comme ne venant pas de Dieu, eh bien, peut rentrer dans la classification des idoles. Il continue en disant, un faux Dieu, une idole, contrôle votre cœur d'une façon telle que vous pouvez lui consacrer la plus grande part de votre passion et de votre énergie, de vos ressources financières et émotionnelles, sans y réfléchir à deux fois. C'est-à-dire qu'il y a des choses, c'est intéressant, comment on peut dire, oh là là, il faut dépenser les impôts, par exemple. Là, les impôts ne seront jamais nos idoles, hein, je pense, parce que là, on n'a pas du tout envie de les verser là. Mais c'est marrant comment parfois, on ouvre notre porte-monnaie sans même y réfléchir, hop, c'est parti, puis après on se dit, au fait, oh, je viens de dépenser ça. Et là, c'est une interpellation de nous dire, peut-être, ça devrait nous amener à dire, tiens, si je ne réfléchis pas et que je dépense vite, est-ce que je peux y réfléchir? Vos idoles, continuent-ils, peuvent être votre famille et vos enfants, votre carrière et votre réussite financière, votre réputation et l'adulation des autres, un désir de sauver la face et d'être bien vu dans la société, ou encore une relation romantique, vos compétences et vos talents, l'approbation de vos pairs, la sécurité et des circonstances favorables, votre beauté ou votre intelligence, une grande cause politique ou sociale, votre moralité et votre vertu, et même votre succès dans le ministère, et vlant pour les pasteurs. Une idole est tout ce que vous contemplez en vous disant au fond du cœur, si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens. Une idole est tout ce que vous contemplez en vous disant au fond de votre cœur, si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens. Vous relevez ici que c'est quelque chose qu'on n'a pas. L'idole peut être très souvent quelque chose que l'on a, ça peut aussi être quelque chose que l'on n'a pas. Quelqu'un qui est dans la misère peut avoir une vraie idole de l'argent et poursuivre l'argent comme une fin en soi. Et je relève aussi également, là, ça, Tim Keller ne le dit pas là, dans son chapitre, mais je le relève simplement pour être sûr qu'on parle bien, qu'on est tous sur la même page ici, que dans tout ce qu'il décrit ici, il y a énormément de bonnes choses. La question ici, c'est la place qu'occupe cette chose. Est-ce que cette place est disproportionnée à ce qu'elle devrait être? Alors, il y a énormément d'idoles autour de nous ici. Et il y a beaucoup d'idoles qui sont très, très, très développées, très omniprésentes autour de nous, dans la société qui nous environne. Et ces idoles, eh bien, elles peuvent paraître extrêmement solides, massives, elles peuvent paraître inébranlables, et pourtant, il arrive qu'elles soient ébranlées. Je vais prendre un exemple. Il y a quelque chose que nous idolâtrons, hein, ça se dit comme ça en français? Il y a quelque chose que nous idolâtrons dans notre société occidentale depuis à peu près 2 siècles. C'est même beaucoup plus ancien, mais on va dire depuis 2 siècles ici. L'éloge de la raison humaine, manifesté particulièrement dans le fait scientifique. Et l'exemple que je veux donner ici, c'est simplement pour dire, évidemment, on est pour la science, on est pour la raison humaine. On ne veut pas vivre et entretenir une sorte d'ignorance pieuse, ce n'est pas là l'objectif. Mais ce que je relève, c'est de voir combien on a été bercé dans notre éducation, bercé dans notre système social, pour dire, si la science le dit donc, c'est vrai. Si la science le démontre, donc, c'est vrai. Et si un fait n'est pas prouvé scientifiquement, donc c'est douteux. Et c'est ainsi que la Bible, par exemple, a été durement attaquée. Parce qu'on va dire, regardez, il n'y a pas de preuve que Jésus ait pu naître d'une femme vierge sans une relation avec un homme. C'est scientifiquement improbable, donc ce n'est pas vrai. Et mon point ici, c'est de dire, il y a quelque chose de bon dans le coronavirus. C'est qu'on entend tout et son contraire parmi les plus éminents scientifiques. On peut avoir la démonstration d'un plus grand chef de service, des plus grands scientifiques, des plus grands spécialistes, qui va nous dire ces choses sur le masque, et l'autre à côté va dire tout l'inverse sur le fameux masque. Sur les vaccins, j'en parle même pas. Et combien on peut voir une idole ébranlée. Parce que je crois que la science peut enfin retrouver sa juste place. J'ai une petite anecdote ici, peut-être je vous l'ai déjà racontée, mais comme la moitié d'entre vous n'était pas là, si je l'ai déjà fait, je me souviens, il y a une trentaine d'années, je me suis retrouvé en soins intensifs. Et en soins intensifs parce que, apparemment, un petit virus, c'était pas le coronavirus, parce qu'on n'en parlait pas il y a 30 ans, mais a décidé d'enflammer le liquide qui est autour du cœur, le péricarde, et j'ai fait une péricardite aiguë, qui fait que mon cœur s'est arrêté, et que je me suis retrouvé en soins intensifs. Donc voilà, pour la petite histoire, c'était un peu bizarre, parce que je me sentais bien avec ça. Le lendemain, une amie, médecin, grand médecin, vient me visiter, une sœur en Christ. Elle vient me visiter, elle avait accès aux soins intensifs, et elle me dit, écoute Samuel, je vais te dire quelque chose que mes collègues ne te diront peut-être pas ici. Eh bien, c'est que en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Probablement un virus, mais on n'en a aucune trace. En fait, on doit admettre qu'on ne sait pas tout. Et on doit admettre qu'on doit être humble, et elle a rajouté, et c'est très bien comme ça. Je pense que l'enjeu dans cet exemple, c'est de montrer comment on peut être pris par quelque chose de bon. La science est bonne, bien des points. Mais quand la science devient Dieu, on voit les dégâts que cela peut faire et cela doit nous interpeller dans cette notion-là. Dans son paragraphe, toujours sur les idoles au sein de notre culture, je reprends Keller qui cite alors un autre auteur du nom de Del Banco. Je ne sais pas si quelques-uns parmi vous le connaissent, mais cet auteur parle de la culture, et particulièrement de la culture occidentale, et plus précisément en Amérique du Nord. Alors on pourrait me dire, oui, mais nous ici on est en France. Mais il y a quand même des liens, vous allez voir. Et voici ce qu'il dit. J'utiliserai le mot culture, et Keller, dans une note en bas de page, il dit, là où Del Banco utilise le mot culture, moi je mettrai le mot idole. Et c'est intéressant comment il développe ça, je vous passe évidemment toutes les lectures, vous lirez tous le livre pendant l'été sur votre table de nuit pendant que vous serez en vacances, mais voici ici ce qu'il dit, j'utiliserai le mot culture, et Keller dirait idole, pour parler des histoires, des symboles par lesquels nous tentons de repousser le triste soupçon que nous avons de vivre dans un monde dénué de sens. Et il poursuit en disant, c'est ça surtout qui m'intéresse, selon Del Banco, chaque culture, ou chaque idole, possède son espérance principale autour de laquelle tourne la vie de ses membres. Et là, il fait une étude de la société occidentale, et encore une fois, plus particulièrement américaine, mais je ferai un petit parallèle avec la France. Il dit, voilà, dans la culture occidentale américaine, eh bien, on peut observer dans l'histoire des États-Unis trois phases avec leurs espérances fondamentales. La première phase s'appelle Dieu. La deuxième, c'est appelé la nation. La troisième s'appelle moi. Dieu, la nation et moi. Il développe. Dans sa première phase, c'est-à-dire une espérance en Dieu, eh bien, l'espérance s'exprimait surtout par le biais d'une histoire chrétienne qui donnait du sens à la fois à la souffrance et au plaisir et qui promettait même une délivrance après la mort. On avait une perspective de la vie qui faisait qu'on pouvait relativiser certaines choses, mettre les choses en place ici. Dans la deuxième phase, c'est-à-dire une espérance en la nation, le siècle des Lumières a enlevé un Dieu personnel et lui a substitué l'idée d'une nation déifiée. Cette deuxième phase, qui n'a commencé à s'estomper qu'au cours des années 60, a transféré les anciennes idées du sacré vers la nation elle-même, qui ont commencé à se voir comme une nation rédemptrice dont le système gouvernemental et le mode de vie seraient l'espoir du monde entier, en toute modestie. Et il continue en disant, aujourd'hui, l'espérance en moi, le besoin de transcendance et le sens de la vie est détaché de tout sauf de l'individu et de sa liberté d'être ce qu'il a choisi d'être. Le sens de la vie se trouve dans la création d'un soi en exaltant la liberté individuelle indépendamment des contraintes de la communauté. Alors on le voit très bien dans un certain nombre de faits d'actualité. Je veux dire, si on veut revenir en France, nous en France, on n'a peut-être pas eu, comme dans l'histoire d'Amérique du Nord, un sens d'une présence de Dieu, mais on a eu la chrétienté, qui a bien marqué une longue période de notre histoire. Cette chrétienté était suivie de la Révolution et des Lumières. Et là, on retrouve le même biais ici, et on est tout à fait en ligne avec la notion du moi ici. Or, Tim Keller continue. Alors tout ça, encore une fois, je vous en donne les grandes lignes, j'espère que ça vous donnera envie de lire le livre. Il continue en disant quelque chose d'assez fondamental, les idoles produisent de fausses croyances. Elles nous rendent convaincus de fausses croyances. Du genre, je cite, « Si je n'arrive pas à telle ou telle chose, alors ma vie ne vaut rien. » Ou « Puisque j'ai perdu ou déçu telle ou telle personne, alors je ne pourrai plus jamais être heureux ou pardonner. » Ces croyances approfondissent nos déceptions et nos échecs ordinaires et les transforment en expériences qui détruisent notre vie. Et ça mérite d'être réfléchi. Ça mérite d'être pensé un petit peu lorsque des choses nous arrivent, de voir un peu, et il va aller plus loin. Mais toujours Keller qui dit « Le cœur humain est une véritable fabrique d'idoles à grande échelle. » On conclut ça très fort. Et la question c'est, y a-t-il de l'espoir? Évidemment, on s'attend à ce que la réponse soit oui. Ben oui, Keller donne l'argument qu'il y a un espoir ici. Oui, si nous réalisons que les idoles ne peuvent pas simplement être supprimées. Là, je trouve le point intéressant. On pourrait dire, ben, supprimons les idoles. Keller dit, vous ne les supprimez jamais. Il n'y aura rien à faire, vous ne pourrez pas les supprimer. Non, l'enjeu n'est pas de les supprimer. L'enjeu, c'est qu'elles soient remplacées. Si vous essayez seulement de les enlever, elles repousseront, dit-il. Mais elles peuvent être supplantées par quoi ? Par Dieu lui-même, bien sûr. Si la créature est à sa juste place et que le Créateur reprend sa juste place, eh bien, les choses reprennent tout leur sens ici. Par Dieu, bien sûr. Et là, il précise quand même, c'est important. Mais quand on dit Dieu, on ne parle pas d'une simple croyance en son existence. Il n'est pas question ici juste de dire « Oui, je crois en Dieu, je crois en la Bible. » La plupart des gens y croient, pourtant leurs âmes sont remplies d'idoles. Non, ce qu'il nous faut, dit-il, c'est une vraie rencontre avec le Dieu vivant. Et je rappelle ici que quand Dieu nous donne sa loi, sa parole, il dit « La réalité, c'est qu'il y a un seul Dieu, c'est moi. » Dieu dit ça. Hein. « Il y a un seul Dieu, c'est moi. » Donc, tout ce que vous pouvez appeler Dieu derrière, ne va qu'apporter des problèmes. Il y a un seul Dieu, c'est moi. Alors, venez à moi. Venez me rencontrer. Et tout ce développement ici, c'est pour voir que, en fait, je crois que c'est tout à fait le propos de Paul dans le texte de notre jour ici. Lorsqu'il dit aux Galates, « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui, par nature, ne le sont pas. » Donc, vous étiez dans l'idolâtrie. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout, après avoir été connu de Dieu, j'arrête là la citation parce qu'on y reviendra plus tard. Ce que Paul est en train de dire ici aux chrétiennes et aux chrétiens de Galates, à qui il s'adresse ici, c'est qu'il leur dit le constat, il leur rappelle, il dit « Vous ne connaissiez pas Dieu ». Je précise ici qu'il y a une petite différence de vocabulaire. Le verbe « connaître » ici, dans cette phrase « Vous ne connaissiez pas Dieu », ce n'est pas tout à fait le même verbe que lorsqu'il dit « Vous avez connu Dieu » et surtout « Vous avez été connu de Dieu ». Le premier verbe ici, vous ne connaissiez pas Dieu, c'est que vous n'arriviez pas à vous faire une idée sur qui est Dieu, vraiment. Vous n'arriviez pas à vous faire un concept de cela, ce qui est différent donc des autres verbes ici. Mais, dit-il, vous avez rencontré Dieu, vous avez connu Dieu, et surtout, vous avez été connu de Dieu ici. L'évangile, ici, consiste en une relation dans laquelle nous sommes connus de Dieu, et donc nous connaissons Dieu. Alors je rappelle, parce que je pense que c'est acquis pour tout le monde, mais parfois des petits rappels sont bons. Que veut dire ce verbe connaître ici, hein? Dans la pensée biblique, connaître, eh bien, ça ne veut pas dire être doué de connaissance. Ça ne veut pas dire, par exemple, avoir besoin, la nécessité d'être un théologien pour dire « je connais Dieu, vous avez connu Dieu ». Il n'est pas en train de dire « ah oui, vous avez fait 3-4 ans d'études de théologie pour être capable de vraiment vous faire une très bonne idée de Dieu, donc vous avez connu Dieu, ça va, ça va vous aider à lutter contre les idoles. Je crains que ça fasse l'inverse. Ce n'est pas la question ici qui est donnée. La question qui est donnée ici, dans la pensée biblique, il est en train de... On peut voir à bien des reprises qu'on peut être un grand docteur de la loi et ne pas connaître Dieu. On peut être quelqu'un qui a étudié profondément les choses et pourtant ne pas le connaître ici. Et ici, précisément, dans le contexte des Galates, on a vu jusque-là qu'ils sont influencés par des enseignants, donc des gens qui connaissent les Écritures, mais qui les égarent. Et on peut faire un parallèle assez proche avec les docteurs de la loi, confrontés souvent à Jésus, quand Jésus parlait durement à eux pour dire « Vous dites connaître Dieu, vous ne le connaissez absolument pas. J'en sais quelque chose parce que moi, Jésus, je le connais très bien, Dieu. Et je vois que vous êtes complètement à côté parce que votre pensée, votre connaissance n'est pas une connaissance de relation. » Paul ne dit pas, par exemple, de ceux qui ont écarté les Galates de la juste voie. Il ne dit pas d'eux qui ne connaissent Dieu. Donc connaître Dieu est dans le sens hébreu du terme, c'est-à-dire une relation profonde et intime. Connaître quelqu'un, c'est être en relation avec quelqu'un. C'est pouvoir dire, oui, je connais, on le dit dans notre langage courant, oui. Ah oui, je connais mes voisins, oui, en fait je ne sais rien d'eux, mais je les connais parce que voilà, je les ai vus, on a discuté, etc. Là. Et puis le terme va encore beaucoup plus loin dans la Bible, vous connaissez tous le fait que dans les premiers textes de la Bible, Adam connut Ève, c'est-à-dire qu'il a une relation très intime avec elle, puisqu'elle est tombée enceinte. Et le verbe ici de connaître, donc, ça montre qu'une intimité très forte, très profonde, très vraie, très réelle ici. Et on voit que Paul, en fait, parle de cette relation de l'Évangile depuis le début. Je reprends juste les quelques versets du début de l'Épître, par exemple verset 3, quand Paul dit « grâce et paix de la part de Dieu ». C'est Dieu qui vient et qui nous accorde de nous donner sa grâce et sa paix. Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Au verset 6, il continue en disant « C'est celui qui vous a appelé par la grâce du Christ ». S'il nous appelle, c'est qu'il est venu à notre rencontre pour établir une relation avec les hommes. Paul encore dit au verset 21 du chapitre 1er, « Moi-même, je ne l'ai pas reçu ni apprise d'un homme, mais par révélation de Christ. Christ est venu vers moi vers le chemin de Damas, et c'est lui qui s'est révélé à moi. Donc j'ai été connu de lui. Il a entamé une relation avec moi », dira Paul. Encore une autre citation, verset 15, « Il a plu à Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé. » On voit là que Paul se sent investi d'un appel, d'une connaissance de la part de Dieu, alors même qu'il n'était pas encore né. Et dit « Il m'a connu dans le sens qu'il a établi un lien avec moi, il a établi une relation avec moi ici. » Et donc Paul dit aux Galates, « Vous avez été connus de Dieu, il est venu à vous, il s'est révélé à vous, il est entré en relation avec vous. » Et donc, par conséquent, chapitre 2, verset 16, encore pour remontrer un peu le contexte ici, il dit, « Sachant que l'être humain n'est pas justifié en vertu des œuvres de la loi, mais au moyen de la foi de Jésus-Christ, en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. » J'ai été connu de Dieu, je connais Dieu. Je réponds à le fait qu'il soit venu vers moi. L'Évangile, c'est Dieu au commencement, c'est Dieu qui entre en relation avec nous. Et c'est nous qui répondons en relation avec lui. Donc Paul est en train de dire quoi ici? Il est en train de dire que les Galates étaient des idolâtres, qu'ils étaient imprégnés de cela. Ils servaient des dieux de contrefaçon. Petit rappel technique aussi ici, lorsqu'il dit qu'ils servaient des dieux, c'est l'idée pas juste de servir, c'est l'idée de servitude. C'est le mot qu'a donné esclave, c'est le mot douleo qu'a donné doulos. C'est donc le terme esclave, se rendre esclave en servant les idoles, et bien en servant les dieux de contrefaçon. En fait, vous vous êtes mis dans un service de servitude, un service d'esclavage ici. Donc, premier point que Paul ici donne, c'est les Galates étaient des idolâtres. Ils sont devenus chrétiens, dit-il. Ils ont connu Dieu et surtout ont été connus de Dieu. C'est-à-dire que la servitude devient un culte libre. De cet esprit de « vous étiez pris par leurs idoles, ils sont libres maintenant de célébrer Dieu. » Et on voit ce lien avec l'Exode, où Dieu les libère de l'esclavage, il les libère complètement, afin qu'ils aillent rendre un culte. Et le mot paralésie, c'est d'offrir une célébration. Et la dynamique ici n'est pas du tout la même. Les idoles rendent esclaves, et souvent on y tombe en pensant trouver la liberté. On y tombe en se disant, tiens, je serai libre si je fais cela. Eh bien, on se rend compte vite qu'on peut être pris dans les pièges. Par contre, l'Évangile libère. Donc les Galates étaient des idolâtres, ils sont devenus des chrétiens, mais ce que Paul dit, c'est que ils sont retournés dans la servitude des idoles. Et voilà ce qui devrait nous interpeller ce matin. Ils étaient dans les idoles, ils sont devenus chrétiens et ils sont retournés dans la servitude aux idoles. Je relis le texte. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, verset 9, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Alors, en guise de remarque, je ne pense pas qu'il s'agisse des mêmes idoles. Je ne pense pas que les Galates soient retombés dans le monde des idoles qu'ils ont quitté en devenant chrétiens ici. Mais je crois qu'il s'agit de la même dynamique. C'est qu'il se passe la même chose dans leur cœur par rapport à la place que Dieu peut occuper ici. Ce ne sont plus les idoles païennes, mais les idoles religieuses. Et là, peut-être qu'on doit se poser un instant. Parce que jusque-là, vous allez me dire, bah oui, Samuel, on sait qu'il y a tout ça autour de nous. On sait que c'est pas là qu'on va se donner ici. Mais est-il possible que s'infiltrent en nous des idoles religieuses? Alors, je reviens à l'auteur Tim Keller et je fais une parenthèse à son sujet ici. Parce que, en fait, je parle de temps en temps de lui, mais Tim Keller est un pasteur presbytérien, donc réformé. C'est le genre de pasteur pour qui la solidité doctrinale est importante. Je précise, par rapport à ce que je vais dire dans un instant ici. Mais il est aussi évangélique. Enfin, il ne le dirait pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Il est aussi évangélique, c'est-à-dire pour lui, il y a des choses importantes comme la proclamation de l'Évangile, la promotion de l'Évangile, l'œuvre de l'Esprit-Saint dans les églises. Donc, je fais cette parenthèse parce que maintenant, ce même pasteur va dénoncer certaines idoles qui peuvent nous toucher de près. Il revient sur cet auteur, Del Banco, qui rappelle donc au début de l'histoire américaine, la société s'était construite autour de la religion, et parenthèse, ce que ne dit pas l'auteur ici, c'est que nous les Français, en fait, bon nombre d'entre nous, beaucoup de choses sont parties d'ici, de Paris même, de ce quartier d'ailleurs, on l'a dit plusieurs fois, et ces Français sont partis rejoindre d'autres en Europe, qui après sont à leur tour partis, pour créer un monde nouveau aux États-Unis. Et c'est intéressant de voir que souvent, ils étaient partis parce que la liberté religieuse il n'y avait plus cette liberté religieuse. Donc, ils sont partis dans l'espoir de créer un monde nouveau garantissant la liberté. Et Keller de dire, avec l'évolution des choses ici, est-ce que la solution au problème culturel qui est le nôtre ne devrait pas être un retour à la religion? N'est-ce pas qu'un retour à la religion pourrait être vraiment une raison de se dire on va mener un combat, et je crois que certains le font, et ça sera la façon pour nous de retrouver nos valeurs, etc. Et il répond, eh bien c'est pas si sûr. C'est pas si sûr parce que l'idolâtrie est tellement omniprésente qu'elle domine aussi ce domaine. Il est en train de dire, ces tentations peuvent être à leur tour idolâtres. Et il donne trois exemples. Premier exemple qu'il donne ici, c'est qu'il dit ceci, au sein des communautés religieuses, on rencontre l'idolâtrie, surtout lorsque des vérités doctrinales sont élevées à la position de faux dieux. Lorsque les gens se croient justifiés grâce à l'orthodoxie de leur doctrine, alors que leur salut devrait dépendre que de Dieu et de sa grâce. Et il ajoute, c'est une erreur subtile, mais fatale. Vous savez que vous êtes tombé dans ce genre d'auto-justification quand vous devenez ce que le livre des Proverbes appelle un moqueur. Les moqueurs font toujours preuve d'arrogance et de dédain envers leurs opposants, mais jamais de grâce. Cette attitude démontre à elle seule qu'ils n'ont pas conscience d'être sauvés par grâce. Et je rappelle, c'est Tim Keller qui fait partie du mouvement aux États-Unis presbytérien les plus dynamiques en doctrine, et en proclamation de l'Évangile. C'est que là, ce qu'il est en train de écrire frappe de plein cœur sa propre Église. D'ailleurs, il ne s'est pas fait des amis dans ces livres-là. Mais je crois que c'est intéressant de voir comment parfois notre doctrine aussi, or, je ne parle même pas des doctrines déviantes, mais quand on a une doctrine orthodoxe, combien de fois est-ce que j'ai entendu, et combien de fois peut-être je m'entends dire moi-même, de dire, oui, enfin, on a la meilleure doctrine. Nous, on a tout compris. Les autres, ils ont besoin de faire du chemin encore ici. Et combien on peut tomber ici dans une idole même de la doctrine. Soyons sur nos gardes avec ceci. Autre exemple, il dit une autre forme d'idolâtrie que l'on peut trouver dans le monde religieux et dans les églises est la tendance à élever les dons et la réussite du ministère au rang de faux dieux. Et il développe ainsi les dons spirituels qui seraient les talents, les capacités, la performance, la croissance. Ces dons spirituels sont souvent pris à tort pour ce que la Bible, elle, appelle le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la patience, l'humilité, le courage, la douceur. Là aussi, on peut voir comment certains aspects bons peuvent être mis au rang de l'idole. Troisième exemple qu'il donne, vivre une bonne vie morale peut devenir aussi une idole religieuse. Alors encore une fois, la doctrine est bonne. Vivre nos dons, c'est bon. Avoir une moralité, c'est bon. Attention, ne disons pas ce que ça ne dit pas ici, mais attention au rang qu'on lui donne ici. Il peut dire que ça peut aussi devenir une idole religieuse. Le mode par défaut du cœur humain est de chercher à contrôler Dieu et autrui par notre performance morale. Quand nous vivons de façon vertueuse, nous croyons que Dieu et les autres nous doivent respect et soutien. Et là, on voit la motivation qui n'est pas à sa juste place ici. On peut rajouter des choses. Moi, je me permets de rajouter, ce que Keller ne fait pas dans son livre, je me permets de rajouter qu'il y a aussi dans l'Église parfois des formes, des traditions, des choses qui se sont toujours faites et qu'on ne bouge pas. Où il peut même y avoir un retour, une mode, un retour, par exemple dans les formes liturgiques. Et vous savez combien je suis attaché à ce qu'on donne des valeurs à certaines traditions, etc. Là, mais ça peut devenir un refuge dans lequel on se met tellement dans certaines formes de l'Église qu'on arrive à ne plus avoir besoin de réfléchir à ce qu'on fait et à penser à ce qu'on est en train de faire ici. D'ailleurs, pour la petite histoire, alors ça aussi c'est pareil, je l'ai peut-être déjà raconté, mais il y a une trentaine d'années, d'ailleurs, la même période que l'histoire des soins intensifs, j'étais en stage, enfin nous étions en stage avec Carole, mais j'étais en stage pastoral, et je visite un pasteur d'une église voisine, pour tout dire, une église réformée de France, et ce pasteur, c'était un de ces petites villes où il y avait une église réformée de France et une église réformée évangélique, et ça remontait à bien avant l'histoire de l'Union nationale, les églises protestantes réformées évangéliques, là, c'était en plein concordat que ça s'était fait, mais en tout cas, ce pasteur était le pasteur de l'église réformée de France, et il nous a dit ceci qui était quand même assez intéressant, il me dit, vous savez, je peux prêcher absolument tout ce que je veux du haut de la chair, et jamais personne ne me dira quelque chose. Sous-entendu, je peux prêcher, mais les choses les plus hérétiques, comme les choses les plus orthodoxes, ça ne fera aucune différence dans mon assemblée. Il dit, par contre, si je bouge les bancs de place, c'est un scandale. Et il y a quelque chose d'interpellant. C'est un exemple extrême. Je crois qu'il était très vécu, son exemple. Mais c'est un exemple qui peut être assez extrême et qui montre à quel point on peut faire l'idole des bancs dans l'église. On peut vite faire l'idole de notre bâtiment. On peut vite faire l'idole de beaucoup de choses. Et je crois que cela doit, là aussi, nous interpeller. C'est le problème des Galates à qui Paul s'adresse. Ils sont chrétiens. Ils ont été connus de Dieu, dit-il. Ils ont connu Dieu. Mais ils s'en sont écartés, s'attachant à des rites, à des traditions dont le sens vis-à-vis de l'Évangile devient un contresens. On a deux exemples clairs qu'on a évoqués, mais je les remets là puisqu'il en parle ici. Souvenez-vous que le mouvement de ces Galates, c'est de revenir à la circoncision. Or, ce retour à la circoncision, cette circoncision, elle a eu un sens plein et entier pendant des générations. Mais maintenant, elle n'a plus de sens. Maintenant qu'ils sont devenus chrétiens, elle n'a plus de sens. Pourquoi ? Parce que le sens de cette circoncision, c'était de donner un signe, le signe de la foi d'Abraham. Et le signe de cette foi d'Abraham était le signe comme quoi, pour recevoir l'évangile un jour, il va falloir que le sang coule. Et donc, on mettait ce signe du sang qui coule sur les petits garçons à l'âge de 8 jours, de façon à ce qu'ils se souviennent que le sang a dû couler pour moi, pour que le jour vienne où l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ sur la croix, fait couler son sang. La circoncision a eu tout son sens jusqu'à ce que Jésus vienne et soit crucifié. À partir de là, le signe de la foi devient le baptême. Parce qu'avec le baptême, on a le symbole qu'on est enseveli avec lui dans la mort et on est ressuscité avec lui. Comment est-ce possible que des chrétiennes et des chrétiens qui ont été probablement baptisés, je dis probablement, je suis quasi sûr qu'ils ont été baptisés ici, arrivent à un mouvement de dire non, on va retourner à la circoncision, sinon de dire vous n'avez pas compris le sens de la circoncision, vous n'avez pas compris le sens du baptême, vous n'avez plus compris le sens de l'évangile, et maintenant vous revenez en arrière et vous vous mettez sous un esclavage ainsi, dans un contresens. L'autre exemple qu'on avait évoqué aussi il y a quelques semaines en arrière, eh bien, et qui est clairement évoqué ici, lorsqu'il est question d'observer les jours, les mois, les temps et les années, c'est-à-dire qu'ils reviennent à certains calendriers liturgiques, il y a du bon dans cela, sauf que là, ils ont gardé, ils sont revenus en arrière sur le calendrier liturgique, sachant qu'il y a un certain nombre de jours dans le calendrier liturgique qui ont pris du sens, là aussi, avec l'Évangile. Et l'exemple clair, c'est la fête de la Pâque. La fête de la Pâque établie dans l'Exode. Là aussi, c'était un signe qui montrait que le sang doit couler. Et ce sang qui coule protège ceux qui ont la foi. Et c'est ce qu'on voit dans l'Exode ici. Ainsi, la Pâque était célébrée de génération en génération jusqu'à ce que Jésus dise, c'est la dernière fois. Nous ne mangerons plus de ce pain de la même façon. Nous ne mangerons plus ce pain de la même façon. Parce que maintenant, une nouvelle Pâque naît. Il n'y a qu'en français qu'on a un truc pareil, d'ailleurs c'est compliqué, hein, mais dans toutes les langues du monde, il y a deux mots différents. Nous, on a le même mot, sauf qu'il a un S à la fin. Eh bien, la Pâque juive sans S a été remplacée par la Pâque chrétienne avec un S. Et là, on voit qu'ils reviennent à la Pâque juive. Ils reviennent à la Pâque d'avant, comme si Jésus-Christ n'était pas venu, comme s'il n'avait pas donné sa vie, comme son sang n'avait pas coulé, et comme s'il n'y avait pas une vie nouvelle qui était devant nous ici. Eh bien, nous voyons que l'idolâtrie a gagné ces Galates. Qui sait pourquoi ? Par quel raisonnement il y a eu ? Paul ne s'étale pas là-dessus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont revenus à des traditions, ils sont revenus à des faits et gestes qui montrent qu'ils ont manqué le sens des choses. Ils ont perdu le sens des choses et sont passés à côté ici. Question donc, est-il possible de retomber dans l'idolâtrie alors qu'on en est sorti ? Je crois que la réponse est claire, oui. Paul est en train de dire que oui. Mais alors la question maintenant c'est, est-ce que nous en sommes conscients ? Lorsqu'une idole prend possession de votre cœur, dit Keller encore, elle construit toute une série de fausses définitions du succès et de l'échec, du bonheur et du malheur. Elle redéfinit la réalité selon ses propres termes. C'est qu'on peut se trouver pris dans l'Église en train de tenir un raisonnement qui fausse tout. De tenir un raisonnement qui fait qu'on ne comprend plus le sens du baptême. On ne comprend plus le sens de la scène. On ne comprend plus le sens d'une liturgie de culte. On ne comprend plus peut-être même le sens du culte. On ne comprend plus la place du chrétien dans le monde. Et on passe à être convaincu de certaines choses et bien souvent à se tromper de combat. Et je crois que cela veut dire que nous devons faire un effort. On doit avoir là un acte intentionnel de nous questionner, et de questionner ce qui définit nos succès, ce qui définit nos bonheurs, même en tant que chrétien, même dans l'Église. Et là, encore une fois, je vous ai dit que je le ferai souvent hein, ce matin, encore une fois, je reprends des propos de Keller pour nous aider à voir comment identifier nos idoles. Voici ce qu'il dit. Vous allez peut-être régulièrement dans un lieu de culte. Vous avez une connaissance approfondie des doctrines. Vous faites peut-être tous vos efforts pour croire en Dieu et lui obéir. Mais quelle est la source quotidienne réelle de votre salut ? Pour qui ou pourquoi vivez-vous vraiment ? Qui est votre Dieu ? Oh, pas celui que vous proclamez, mais celui de la réalité de votre existence. Un bon moyen pour trouver la réponse à ces questions, c'est d'observer votre réaction, et particulièrement votre réaction aux prières non exaucées ou aux attentes non réalisées. Lorsque vous demandez quelque chose et que vous ne le recevez pas, si vous êtes triste et déçu, mais continuez à vous battre, et précise, la vie c'est pas terminé encore, hein, alors cette chose n'est pas votre maître. Mais si vous êtes rempli d'une colère explosive ou d'un désespoir profond, alors vous avez démasqué le Dieu qui est au fond de votre cœur. Et à la question, que faisons-nous contre ? Devons-nous revenir sur une réalité ? Les idoles nous asservissent. L'Évangile nous libère. Les idoles nous détournent, les idoles détournent le culte au vrai Dieu. L'Évangile nous donne de venir à Christ, d'y trouver son pardon, sa paix et la juste place des choses, notre juste identité. À la rentrée, je vous l'avais promis, on va revenir sur le sermon sur la montagne et la première des béatitudes est entièrement à ce sujet. Heureux les pauvres en esprit, c'est-à-dire heureux ceux qui se mettent à leur juste place par rapport à Dieu, sachant qu'on a l'art de mettre Dieu beaucoup plus bas que ce qu'il est en fait, et de nous mettre nous beaucoup plus haut que ce que nous devrions être ici. L'Évangile nous donne de venir à Christ et de trouver notre juste place. Et au verset 9, il dit « Comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir ?» de Paul. Eh bien, simplement rappelons que les dieux de contrefaçon dont il parle ici sont faibles et pauvres. Ils peuvent paraître d'une puissance inouïe autour de nous parfois, mais ils sont faibles. Le mot littéral ici, c'est qu'ils sont sans force, ils sont infirmes, ils n'ont pas la moindre énergie, sauf celle que nous leur donnons. Pauvres, c'est-à-dire qu'ils sont réduits à la mendicité. Et si vous voyez le lien avec ma lecture tout à l'heure du psaume 115, la proposition que je vous ai faite ici, nous voyons que les idoles peuvent nous coûter cher. Elles peuvent tenir tout un discours dans nos têtes. Elles peuvent observer nos faits et gestes. Elles peuvent contrôler nos vies, se mêler de nos affaires, guider nos décisions. Elles peuvent être très très impressionnantes, mais elles sont d'autant plus impressionnantes que nous leur donnons cette valeur. Le psalmiste dira à ceux qui les façonnent, reflètent cette réalité. Il y a une réalité dans nos vies, mais qui est une réalité faible et pauvre. Paul argumente que du fait qu'ils ont connu Dieu, et même comme on avait vu la dernière fois qu'ils ont le statut de fils adoptif de Dieu, eh bien il n'est pas question ici de parler de conversion pour un changement radical d'une vie nouvelle ici. Ils sont chrétiens déjà, ceux-là qui parlent ici, mais bel et bien de repentance, c'est-à-dire de re-réfléchir les choses, de redéfinir les choses et de revenir à ce qu'ils ont perdu. Et l'enjeu, rappelons-nous, quand Dieu dit « Je suis votre seul Dieu, vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face », et quand il est dit « Vous ne servirez pas les idoles ici », il est bel et bien question de culte. Et le culte en priorité. Eh bien, est-ce que la solution ne commence pas par rendre un culte à Dieu, redonner le sens du culte que l'on doit à Dieu, que l'on veut lui donner dans la liberté qu'il nous est donnée ici. Rendre un culte à Dieu en se préparant. Rendre un culte à Dieu en faisant le geste physique d'y venir. Rendre un culte à Dieu en servant Dieu en premier, les uns et les autres. Après, je rappelle régulièrement cela, et je le prie souvent par rapport aux musiciens, par exemple. J'ai dit, quand on a, surtout quand on a le meilleur pianiste, ce matin, c'était pas terrible, mais quand on te dit, quand on joue ensemble ici, non, on n'est pas là pour faire un show. On n'est pas là pour être devant vous et jouer les choses. Ma prière ici, c'est qu'on rende avant tout un culte à Dieu, de façon à ce que lorsque nous jouons, lorsque nous chantons, les musiciens soient au service de la communauté, mais elle ne le fera que si on rend avant tout un culte à Dieu. Souvent, j'essaye d'imaginer, même au moment où je parle en ce moment, souvent j'essaye d'imaginer que nous sommes dans un endroit où il y a un immense trône sur lequel siège notre Seigneur. Et dire, c'est pour toi qu'on fait cela. On te donne ces choses-là. On ne le fait pas pour impressionner, on ne le fait pas pour convaincre, on ne fait pas les choses pour dire, oh, ça va être cool si je le fais de cette façon, etc. C'est bien si ça passe comme ça aussi, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de servir Dieu et donc servir les autres en second. En rendant un culte, en louant Dieu pour qui il est et ce qu'il fait. C'est ainsi qu'on essaye de définir l'articulation de nos cultes ici, de se rappeler, de prendre le temps de louer Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Le plus on va revenir sur qui est Dieu, sur ce qu'il fait, ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera, le plus on pourra recentrer nos pensées sur la réalité de l'Évangile ici. En l'écoutant, en méditant sa parole, en l'appliquant, en s'engageant avec lui, en s'engageant pour lui, et dans cet engagement, en réfléchissant, en révisant nos aspirations, notre vision du monde ici. Car c'est en lui rendant un culte que nous retrouvons la juste valeur des choses. Lui est le Créateur. Lui est en mesure de nous sauver. lui remet les choses en perspective. Lui tient le monde et conduit le monde, on a besoin de se le rappeler en ce moment. Lui rappellera tout le superflu de ce monde et ses artifices. Lui est celui qui va révéler ce qui restera lorsque ce monde sera filtré dans la fin des temps. Lui révélera ce qui est petit aux yeux du monde et qui pourtant a tant de valeur à ses yeux à lui. Il ne regarde pas nos possessions. Il ne regarde pas nos succès. Il ne regarde pas nos positions, nos rangs sociaux, etc. Mais ce qu'il regarde, c'est la façon dont nous vivons avec ces choses. Ça ne pose pas de problème d'avoir de grands talents, de grandes richesses, peut-être même d'être une vedette dans le monde. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que ça me prend? Est-ce que ça me tient? Est-ce que ça me domine? Est-ce que tout ce que j'ai et ce que je n'ai pas, rappelons-le, eh bien, est-ce que tout ce que j'ai et tout ce que je fais est un culte à son honneur? Et si ça peut nous aider, après cela, en rentrant chez nous, on peut relire ce psaume 115 et le tourner en culte d'adoration. Mais je termine avec un autre effet. Un autre effet que l'idolâtrie religieuse peut avoir dans nos vies et peut avoir dans le monde aussi. Question. Sommes-nous préoccupés par ce qui se passe autour de nous? Sommes-nous préoccupés par l'orientation que prend le monde autour de nous? Sommes-nous préoccupés par le fait que nos politiques, par exemple, pourquoi ne sont-ils pas dans nos églises? Eh bien, je cite Keller une dernière fois. Pourquoi notre culture a-t-elle cessé de trouver en Dieu son espérance? Je crois que c'est parce que nos communautés religieuses ont été et continuent d'être remplies de faux dieux. Pourquoi notre culture a-t-elle cessé de trouver Dieu, en Dieu son espérance? Je le paraphrase, parce que nos églises sont remplies de faux dieux. Faire une idole de la précision doctrinale, du succès de son ministère et de l'excellence morale conduit à d'incessants conflits internes, à l'arrogance, à la justification de soi et à l'oppression de ceux qui se pensent autrement. Ces effets secondaires toxiques de l'idolâtrie religieuse nous a amenés à une désaffectation généralisée de la religion et surtout du christianisme. Convaincus que nous avons essayé Dieu, nous nous tournons maintenant vers d'autres espérances aux conséquences dévastatrices. Ce qui est grave, c'est de voir des chrétiens prendre ce chemin. Peut-être en tant que chrétiens, devons-nous commencer à revenir à Dieu, à lui rendre un culte à lui, à montrer l'espérance de l'Évangile, à montrer l'humilité que produit l'Évangile, et ainsi être celle de la terre. Et peut-être alors le monde autour de nous commencera à retrouver une espérance qu'elle a perdue dans le monde de l'Église. Amen. Seigneur, merci d'être notre Dieu. Merci de nous avoir connus, c'est-à-dire d'être venus à nous. Parce qu'il est clair qu'avec notre super, hyper, giga fabrication d'idoles, nous ne serions jamais venus vers toi. Nous aurions créé toutes sortes de dieux et d'évangiles, et nous le faisons déjà. Mais tu es venu vers nous. Et tu es venu avec une humilité inouïe en Jésus-Christ. Tu n'as pas cherché les apparats, les succès. Tu n'as pas cherché les richesses. Tu n'as pas cherché tout ce que nous cherchons. Et tu es venu. Tu as vécu parmi nous. Tu as donné ta vie. Tu as donné ta vie afin de redonner un crédit perdu, afin de couvrir nos dettes, afin de nous ouvrir une porte, afin de recréer de l'harmonie là où il y avait de la dissonance, afin de nous adopter, afin de nous donner de vivre une réalité nouvelle en toi. Et Seigneur, certes le jour vient où nous serons dans ta présence, et alors que nous serons dans ta présence, nous réaliserons combien tu es tellement immensément plus grand que ce que nous avons jamais imaginé, que nous voudrons en effet t'adresser nos louanges, notre reconnaissance à jamais. Mais Seigneur, aujourd'hui, on a du chemin à faire et on a tellement besoin de revenir à toi en toute humilité. Et c'est notre prière ce matin, c'est que ton esprit nous parle, que ton esprit nous convainc, que ton esprit ouvre nos yeux pour voir à quel point nous nous laissons si vite dominer et à quel point nous passons si vite à côté de l'Évangile. Seigneur, renouvelle-nous ce matin. Et peut-être ce matin ai-je conscience, pris conscience d'une, plusieurs de ces idoles. Peut-être ce matin je réalise qu'en effet, les questions posées par Pasteur Keller m'interpellent. Seigneur, donne-moi de ne pas chercher simplement à dire je vais l'enlever, mais donne-moi de voir à quel point. Si toi, tu occupes la place centrale de mon cœur, ça fera toute la différence. Donne-nous, Seigneur, à la chapelle de Nesle, d'être une assemblée de croyantes et de croyants qui te mettons, toi, au centre de nos vies, au centre de nos pensées, au centre de nos ressentis, au centre de nos décisions. Donne-nous, dans cela, de voir la richesse de tout ce qui peut se faire à côté en les mettant tous à leur juste place. Donne-nous d'être une église belle et rayonnante de tous les dons que tu nous donnes, mais donne-nous surtout de garder nos yeux rivés sur toi et sur ton évangile pour que ce soit ça qui anime nos cœurs et qui nous fasse vivre et vibrer pour toi. Seigneur, donne-nous pendant cette fin d'année, l'été qui vient, de nous ressourcer, de chercher ta face de tout notre être afin qu'à la rentrée scolaire, on soit tous prêts pour le départ de cette nouvelle année. Prêt à tourner des pages, prêt à confronter les nouvelles tempêtes qui seront peut-être devant nous, mais de le faire avec toi et de le faire pour ta gloire. Donne-nous, Seigneur, de grandir dans la compréhension de l'Évangile et de grandir dans la compréhension de ce qui peut si vite nous prendre, nous accaparer et nous éloigner de toi. Ô Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ.